L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. C'est une radio qui est faite par et pour les gourmands, les amateurs de bonne chère et de table qui rassasient aussi bien les papilles et les estomacs que les autres sens et aussi le cerveau et l'esprit. Et ça tombe bien car nous avons pour partenaire cette année l'Université des sciences et pratiques gastronomiques basée à Quimper, que nous retrouvons une fois par mois et qui elle-même travaille avec d'autres associations. Quelle bonne idée, elles sont là autour de la table. Il y a Evel Juste représentée par Yann Guillamotte et Graines de Liberté représentée par Emmanuel Antoine. Et puis Xavier Hamon est là donc pour l'université, mais aussi pour l'Alliance des cuisiniers. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
J'ai peut-être demandé à chacun, alors Yann Guillamotte, de nous présenter Evel Juste en quelques mots.
Oui, alors Evel Juste est une association qui organise notamment un fest-noz à Quimper tous les ans, le 31 décembre.
Donc, ah, c'est vous.
Sur une, une nuit particulière. Et donc le but d'Evel Juste, c'est de travailler à la promotion de l'enseignement bilingue sur le pays de Quimper.
Et Graines de Liberté, on les connaît un peu, parce qu'en fait vous aviez eu droit à un reportage dans l'émission Au détour d'une rencontre. Emmanuel Antoine, dites-nous ce que vous faites.
Donc Graines de Liberté est la création d'un établissement semencier en Bretagne pour valoriser des semences, variétés de populations libres de droit, et valoriser aussi le métier d'artisan semencier.
Et on peut trouver maintenant les semences, notamment dans des magasins de vrac, c'est ça, hein, vous
c'est
commencez
ça,
à commercialiser.
Pour le moment, cette année, on a une trentaine de variétés, et en 2022, on en aura 120.
Donc vous êtes 3-4 associations culturelles, donc du coup, vous allez me dire ce qu'est un droit culturel, puisque ce sera un peu le sujet du jour. Alors qui ?
Allez, je veux bien, démarrer. Alors... L'approche des droits culturels, nous, on l'a emprunté au Conseil de l'Europe, qui lui-même a créé la Convention de Faro. Et cette Convention de Faro, elle a une histoire particulière, puisqu'elle est née à la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, et qui faisait le constat amer que, finalement, les emblèmes culturels avaient surtout servi à se faire la guerre et à s'entretuer plutôt qu'à se parler. Et du coup, à la suite de ça, le Conseil de l'Europe a décidé de redéfinir ce que c'est qu'un patrimoine culturel et en quoi il peut faire du commun plutôt que de l'opposition. Et finalement, c'est la notion de droit culturel, elle revendique le fait que tout un chacun, nous tous, ici autour de la table, mais aussi au Fou, à Quimper, en Cornouailles, on est porteur d'une certaine culture, de notre culture, et qu'on peut la partager, et que chaque citoyen, là où il est, peut participer à un patrimoine vivant, à une culture vivante. Alors c'est une autre définition qui intègre vraiment comment les gens vivent au quotidien et en quoi ça fait culture. Et ça nous renvoie aussi à quelque chose de très vivant, quelque chose de très changeant, de mouvant, qui tient compte effectivement de ce que l'on vit. Et ce que l'on vit aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on vivait il y a 20 ans, il y a 30 ans, et encore moins ce qu'on va vivre dans 10 ans. Et c'est comment nous autorisons nous à nous exprimer sur notre culture. Donc c'est très ouvert, c'est voilà.
Et cette conception de la culture, elle est en lien aussi avec celle de l'UNESCO. En fait, quand on dit patrimoine culturel, c'est très large. En fait, c'est aussi les langues, par exemple. Yann Guillamotte, je suppose que vous êtes sensible à ça, non ? À cette conception de la culture qui n'est pas seulement des arts, on va dire, quoi. C'est ça ?
Tout à fait. Et c'est sans doute pour ça qu'on s'est rapprochés aussi, qu'on a travaillé ensemble. C'est parce que nous, on était donc sur le sujet des droits culturels en ce qui concerne la langue, la musique, la danse. Et donc d'où le fest-noz qu'on organise là. Et comme c'était un 31 décembre, on a pensé obligatoirement repas. Et l'idée, c'était de ne pas faire un repas classique, mais peut-être de travailler sur la thématique de la nourriture. Parce qu'il y a repas et repas. Et tant qu'à faire un repas, on pensait qu'il fallait faire quelque chose qui soit aussi militant, qui soit aussi revendicatif sur la culture, justement, du repas, de l'alimentation. Et on s'est naturellement dirigé vers l'Alliance des cuisiniers à Quimper et la démarche de Slow Food, parce qu'on pensait que ça collait avec la démarche militante que nous, on a au niveau de la langue et de la culture, et qu'on pouvait peut-être se rencontrer sur autre chose, mais qui avait la même valeur symbolique et la même valeur pour faire avancer des idées, sans doute, parce qu'on on s'en aperçoit. C'était il y a 4 ans, mais on s'aperçoit aujourd'hui que le sujet devient de plus en plus criant et qu'il est temps de s'activer si on veut changer des choses au niveau de l'alimentation. Et en ce qui concerne la langue et la culture, on voit bien qu'on est sur un travail de 40 ans, mais malgré ça, il y a encore beaucoup d'obstacles. Donc, il y a des combats comme ça qui sont très longs. Et il faut se dire qu'on ne peut pas changer les choses rapidement. Il faut travailler au quotidien, et quelquefois pendant longtemps, pour que ça...
Et pendant longtemps, justement, le temps, ça vous parle, je suppose, à Graines de Liberté, puisque vous êtes dans tout ce qui est collecte de semences, mais vous faites pousser, je suppose, aussi. Comment est-ce que vous vous associez à tout ça ?
Nous, on considère que l'enjeu de la semence, il est contemporain, donc c'est un enjeu culturel. Alors, le temps, on n'en a pas tant que ça, c'est-à-dire que finalement, nos rapports alimentation doivent changer relativement rapidement, et le but, c'est qu'ils ne changent pas uniquement sur des injonctions par le haut, mais bien par le bas. Et donc, du coup, la relation au patrimoine vivant, il est absolument fondamental. Le deuxième aspect, c'est que nous, on défend la semence comme quelque chose de libre de droit. Notre positionnement, c'est des graines pour cultiver nos humanités. Le but, c'est pas uniquement la biodiversité, c'est nous, dans nos rapports aux espèces vivantes, qu'elles soient animales ou végétales, de ne pas considérer que c'est des choses ou du matériel, mais bien des êtres vivants, que ça soit au niveau des végétaux ou des animaux. Donc, c'est effectivement un enjeu culturel. Ce qui est pour nous important, c'est vraiment la dimension culturelle et pas le folklore, c'est-à-dire c'est effectivement la dimension vivante, contemporaine, parce qu'on considère que ces semences sont des enjeux contemporains pour faire face aux enjeux alimentaires, aux enjeux liés à l'érosion de la biodiversité et aux défis auxquels nos sociétés contemporaines et nos territoires sont confrontés maintenant.
Oui, parce que les graines, les semences, les plantes qu'on consomme sont un patrimoine. C'est ça, Xavier Hamon, si vous n'allez pas dire le contraire, le cuisinier en vous ne va pas dire le contraire.
Non, c'est un patrimoine, et ce patrimoine, non seulement il faut en prendre soin, mais en plus, il faut le développer. Or, aujourd'hui, l'alimentation a fait... Enfin, ceux qui ont décidé de notre alimentation depuis 40 ans ont décidé de faire autrement, et que ce patrimoine devait être plutôt utilisé pour intensifier nos modes de production et de standardiser tout ce qui était vivant au départ et qui devient plutôt inerte. Et on voit bien la dérive, pour faire très court, on va plutôt vers la biotechnologie ou du big data appliqué à l'agriculture plutôt qu'au développement de semences de variétés population. Or, aujourd'hui, ce patrimoine, c'est bien pour... Comme les éléments de langue, on en a bien besoin pour nommer les choses. On en a bien besoin pour expliquer ce dont on parle, et c'est pas un produit standard qui peut le faire, puisque je suis d'accord avec Emmanuel, ça prend du temps, mais on n'a plus beaucoup de temps.
Et vous pouvez travailler de conserve en plus, justement sur les noms, parce que par exemple, les graines, on parlait des pommiers, parce que c'est la saison des pommiers en Bretagne. Je ne sais pas combien il y avait de variétés de pommiers, enfin, je ne sais pas si Graines de Liberté pourra toutes les conserver, mais il y avait les noms en tout cas, Yann Guillamotte.
Oui, alors ça c'est intéressant à noter, effectivement, toute plante se nomme, et puis en Bretagne, toutes les plantes ont un nom en breton, et le pommier est peut-être un symbole aussi à ce niveau-là, c'est que le travail sur la pomme a eu une importance très grande en Bretagne, et le nombre de pommiers, que ce soit des pommes pour travailler en cuisine ou pour manger, ou les pommes pour faire du cidre, il y en a des quantités impressionnantes. Et donc, les noms qui vont avec. Et puis, ce patrimoine-là, il faut à tout prix le conserver.
Et vous avez réussi à conserver tous les noms des pommiers bretons ?
Alors, je ne sais pas s'ils sont tous conservés, mais il y a un travail important qui a été fait, notamment au sein de l'association du manoir de Kerno, qui ont...
À Mélac,
qui ont un verger impressionnant avec beaucoup de pommiers, donc de variétés anciennes.
Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire après une fois qu'elles sont conservées. Parce que qu'elles soient conservées et préservées, c'est une chose. Et puis, bah, tant mieux, il faut, sans ça, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et quand on a diminué le nombre de variétés de pommes présentes sur un marché, on a aussi diminué le nombre de préparations, de recettes, de savoir-faire, de consommation locale. Et c'est tout ça qu'on doit, donc, qu'on doit se réapproprier. C'est pour ça que le lien, il est très fort aussi avec le collectage qui a été fait par Dastum, notamment depuis 1972. Comment on s'empare aussi des questions alimentaires à travers des collectages et comment nous, on en fait des éléments contemporains pour faire face à ce qui nous attend.
Oui, parce que toutes ces noms de pommes, c'est aussi de l'histoire. Enfin, je pense qu'il y a des pommes qu'on appelle les pommes en outrou, les pommes du maître. Donc ça veut bien dire qu'apparemment, elles étaient un peu exceptionnelles. Tout le monde ne pouvait pas les manger. et donc, Graines de Liberté, vous avez réussi à... Enfin, comment vous faites parce que vous ne pouvez pas développer ou conserver tous les pommiers.
On n'a pas une fonction de conservation,
ouais,
mais bien effectivement, pour le moment, nous, ce qui est important, c'est de préserver un savoir-faire qui est en train de disparaître, qui est la sélection variétale en plein champ. C'est-à-dire que vraiment, ce savoir-faire, il est dans les labos et du coup, de moins en moins d'agriculteurs ou de maraîchers cultivent leurs propres semences. Ça, pour nous, c'est plus préoccupant que les problèmes réglementaires. Donc, c'est d'abord, avant tout, ce savoir-faire qu'on veut non seulement remettre en avant, mais faire évoluer. Et l'enjeu pour nous n'est pas effectivement une fonction de conservation de semences anciennes, mais bien les adapter aux enjeux d'aujourd'hui et à l'évolution du climat, quoi. C'est le gros intérêt que représentent ces variétés. Donc c'est pour nous une affaire de métier, une affaire de production, parce que les problématiques alimentaires sont pas uniquement, il suffit pas de dire il faudrait qu'il y ait des cantines scolaires, tous en bio, etc. Après, il faut travailler la production. Et donc c'est vraiment des enjeux de production qui se jouent aussi à travers ces dimensions-là, quoi.
Et dans votre association Graines de Liberté, d'ailleurs, vous cuisinez parfois, c'est ça? Pour montrer,
on est en lien. L'opération s'est montée en lien avec l'Alliance des cuisiniers. Bon, en l'occurrence, c'était un long compagnonnage avec les cuisiniers parce que ce sont la première profession qui a réagi suite à la fusion de Bayer-Monsanto en disant si, en gros, les multinationales sont en train de prendre le contrôle de notre alimentation par les semences. Donc, si on ne maintient pas sur les territoires des semences libres d'emploi, un certain nombre de métiers sont amenés à disparaître. Donc c'est d'abord en lien avec l'Alliance des cuisiniers que ça s'est fait. Et effectivement, alors très concrètement, quand effectivement on récolte des graines, parfois on a des fruits. Et l'idée, c'est effectivement de transformer ces fruits grâce aux cuisiniers pour faire effectivement des soupes ou des conserves, voilà, à l'occasion des produits de saison.
Oui, Xavier.
Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de se réapproprier le message culturel, entre guillemets, et on n'a pas peur de ce mot-là. C'est-à-dire que il y a aussi un récit de l'histoire du territoire qui appartient à ceux qui le rédigent, finalement. Et donc, nous, notre intérêt, c'est à travers ce que dit Emmanuel ou à travers ce que dit Evelius, c'est comment nous aussi, on participe à l'écriture du récit du territoire pour ne pas laisser juste quelques-uns. En tout cas, pour la question alimentaire, on va dire très, très clairement l'agroalimentaire dans tout ce que ça peut représenter, qui nous raconte son propre récit. Et il est là aussi le lien au droit culturel. C'est, est-ce que ce récit, on peut le prendre tel quel? Ou au contraire, on peut l'écrire autrement parce qu'on a des réalités différentes. Et s'il n'y a plus ces graines, alors effectivement, on n'a plus que les semences issues de laboratoire. Et les quelques graines qui vont rester, elles vont être accessibles par un petit noyau de privilégiés qui aura la chance d'avoir accès à ces produits-là. Et ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est comment aussi on participe au récit du territoire, à une autre écriture, mais par les citoyens, plus que par... on va dire une machine d'acculturation économique.
Et même en ce qui concerne donc ces recettes ou ces plats, on peut être dans l'avenir, enfin on n'est pas forcément dans la conservation de recettes traditionnelles, c'est ça, on est aussi dans la création.
Ah ben, on est surtout dans la création, et je pense notamment aux enjeux de ce qu'on mettait dans l'assiette, on en a déjà un peu parlé, mais quand on doit changer de régime alimentaire, parce que autour de nous, les clients veulent manger autrement, les mangeurs veulent manger autrement, on est bien obligé de se servir des techniques et des savoir-faire du passé, mais de les actualiser. En ce moment, on travaille sur la création d'un restaurant éphémère sur Pénars, un quartier de Quimper. Mes recettes traditionnelles, elles ne servent à rien. Elles ne vont pas parler du tout à la culture.
Il n'y aura pas de clic à farce.
Bah, peut-être qu'on va s'inspirer d'une potée, mais on va en faire autre chose, forcément.
Ouais, d'accord. Et justement, il faut des événements pour... non seulement on a donc les graines, on a les cuisiniers, mais il faut des événements pour faire manger, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous aviez comme menu idéal donc, pour votre fest-noz du 31 décembre?
On n'est pas parti de vraiment de menu idéal, mais de d'autres façons de procéder. Je vais donner un exemple. Quand il y a deux ans, je pense, on a servi du porc. On aurait pu acheter des rôtis de porc pour 250 personnes. La démarche n'a pas été du tout celle-là, mais plutôt de le porc, ça vient d'un animal. Dans un animal, tout peut être consommé.
Dans le cochon, tout est bon, c'est bien
voilà.
Connu.
Et donc, si on fait un repas pour 250 personnes, peut-être qu'on peut utiliser une bête pour servir ces 250 repas. Et donc, on va tout utiliser et on va le faire de telle manière que il n'y aura pas des personnes qui vont avoir un morceau noble et d'autres qui vont avoir un morceau qui ne l'est pas, mais tout le monde va s'y retrouver, aura dans son assiette quelque chose qui est représentant et emblématique de l'animal qu'on sert.
Alors c'est quoi, Xavier Hamon, c'est une fricassée de cochon ? Qu'est-ce que c'est ?
Il y avait deux cuissons, mais c'est, effectivement, on fait appel aux cuissons longues, où on peut à la fin avoir une partie en effiloché, une partie en petites tranchettes, mais du coup ça permet, voilà, c'est encore une fois, on se sert des cuissons, des types de cuissons qu'on a à notre disposition dans notre bagage culinaire, et après on l'adapte pour être cohérent. C'est le choix qu'on a fait cette année de partir sur un menu 100% végétal. Ceux qui veulent un petit supplément de poisson, par exemple, il y aura un petit supplément aussi économique.
Bien sûr.
Mais la base sera végétale. Et donc, on parle à tout le monde. Voilà, ça fait partie des choix qu'on fait, par exemple.
Et là, c'est Graines de Liberté pour le végétal qui s'en est chargé, non ?
Alors, ce sont des maraîchers qui font partie du collectif de Graines de Liberté qui nous fournissent.
Ouais. Vous avez combien de maraîchers dans le réseau Graines de Liberté qui travaillent ?
On en a 15. Alors, c'est des maraîchers, il y a des pépiniéristes. Là aussi, l'idée, c'était d'élargir un peu le champ, c'est-à-dire pas uniquement d'avoir des maraîchers, mais aussi des pépiniéristes et éventuellement des céréaliers.
Et puis peut-être des jardiniers amateurs, je ne sais pas
et
si vous avez des retours.
Éventuellement des jardiniers amateurs, parce qu'on a aussi notamment un jardinier amateur. La semence, elle n'est pas... Ce qui nous intéresse aussi avec la semence, c'est qu'elle voyage. Quoi. Donc le but, ce n'est pas uniquement des semences anciennes, mais c'est aussi des semences qui iront voyager et qui s'adaptent parfaitement au climat breton.
Alors, il paraît que le Conseil de l'Europe est venu en cap 6-1 sur cette question des droits culturels et de la cuisine.
Eh oui, en fait, comme l'université a voulu s'inscrire dans le réseau de la Convention de Faro, ils sont venus nous rendre visite pour savoir si on était digne d'y figurer. Ouais. Et pour ça, ils sont restés 3 jours pour s'imprégner du territoire à travers les gens qui nous entourent, mais aussi des gens qu'on n'a pas forcément, nous, dans notre entourage. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont tout de suite identifié la césure qu'il peut y avoir dans un endroit comme le Cap 6-1, en tout cas sur la question alimentaire. C'est d'un côté les bio et de l'autre côté les conventionnels. Et comment quels sont les facteurs communs qu'on va trouver pour justement ne pas se foutre sur la gueule, mais arriver à discuter. Parce que si on reste sur des oppositions bio ou pas bio, on voit bien que c'est inextricable. Et le Conseil de l'Europe nous a dit, mais vous avez un réseau suffisamment riche pour travailler cette question-là. Y compris les désaccords et surtout les désaccords. Mais il faut les déplacer sur la culture. Qu'est-ce qui vous réunit ? Qu'est-ce que vous avez de commun quand vous vivez dans le Cap 6-1 ? Si vous êtes opposé par ailleurs sur certains sujets, il y a des sujets qui vous unissent. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes entouré par la mer. Et ça, c'est un facteur commun. Et comment on le travaille ensemble, indépendamment des sujets qui fâchent par ailleurs.
Et puis, ils ont la même musique et danse bretonne du Cap 6-1, spécifique, je suppose, Yann Guillemot.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est justement le fil qu'on a voulu tirer dans la conférence dont on va parler tantôt tout à l'heure. C'est qu'au niveau de la danse et de la musique, il y a eu, dans l'histoire récente, qui a daté à 60-70 ans, un risque de disparition de pratiques culturelles qui étaient liées à la ruralité. Et la ruralité était en train de changer profondément en Bretagne. Et donc, la danse et le chant et la musique qui rythmaient la vie de cette ruralité-là pouvaient faire les frais de ce changement-là. Et il y a des gens qui ont eu l'idée que il fallait peut-être s'interroger sur la façon de continuer à faire vivre cette culture-là. Et donc, il fallait sans doute, et c'est ce qui, le choix qui a été proposé, qu'il fallait passer de la cour de la ferme à la Seine. Et la Bretagne l'a très bien réussi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une culture très bien enracinée dans le passé, mais créative et contemporaine, et qui vit bien, et qui est même sans doute un ressort économique très important en Bretagne. Donc on peut toujours, à des moments clés, faire changer les choses si on prend les bonnes décisions. Je crois qu'avec les problèmes climatiques qui s'annoncent, on est encore à un moment clé et il va falloir faire des choix pour les années qui viennent. Et puis, en travaillant sur l'alimentation, la culture et tous ces liens-là, on va vers ces choix-là.
Et puis en plus, ce qui ne gâte rien, ce sont quand même des thématiques festives. Que ce soit l'alimentation, la danse ou la musique, bon, c'est pas trop rébarbatif, ça aide. Alors, qu'est-ce que ça révèle, cette mise en récit donc, par la réalité des territoires et des habitants, Xavier Hamon?
Par exemple, moi je me souviens d'un travail d'une architecte paysagiste qui s'appelle Amélie Séné, ouais, et qui a fait un travail incroyable sur la bête d'Ouarnenez. Et donc, son propos, il est paysager. Or, elle arrive sur un territoire où elle découvre la même opposition que je viens de décrire sur le Cap Sizun, avec une forte industrie du cochon industriel et des habitants du bourg qui vont à la mer se baigner, ou des touristes qui logent là sur place, qui vont à la mer. Et jamais ça ne se rencontre. Avec la problématique des algues vertes.
Ils se rencontrent par les algues vertes.
Et ils se rencontrent par les algues vertes. Donc
c'est malheureux.
C'est difficile de se rencontrer avec un sujet aussi difficile. Ça veut pas dire qu'il faut pas le traiter. Mais ça veut dire qu'elle, son travail, ça a été de redéfinir un petit peu comment le paysage, est-ce que le paysage peut servir à donner encore une fois du commun. Et là, son travail, il a été passionnant parce que elle s'est dit, mais finalement, tout le monde prend sa voiture pour aller du bourg ou de sa location de vacances à la plage, alors que c'est pas si loin que ça. Est-ce que les paysages qu'on traverse ne peuvent pas faire l'objet d'autres circuits? Et il se trouve que ces circuits, ils existent, ils sont possibles, mais par contre, ça passe par les exploitations ou les fermes de ces fermiers dits conventionnels. Et bien, le fait d'aborder la ferme par le côté, vous avez un paysage, un patrimoine qu'on peut partager pour aller du bourg à la plage, c'est un autre regard qu'on porte sur ce que c'est cette ferme. Encore une fois, ça n'enlève rien au problème qu'on retrouve sur la plage, mais ça permet de commencer à créer du lien et du contact. Voilà, ça a été son travail de fin d'études. Ça mériterait une attention des élus et des politiques locales pour voir comment on va plus loin sur ce récit. De ce nouveau récit du paysage, et voilà.
Et oui, puisque le paysage, c'est du culturel aussi, on
exactement,
sait bien.
Exactement.
Alors, vous avez une table ronde qui s'annonce en fin de semaine, c'est la semaine prochaine, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel en est le thème, et puis les intervenants, peut-être ouais.
Ben, en fait, là on a beaucoup de chance, puisqu'on a Prosper Vaner, qui est un expert auprès du Conseil de l'Europe et de la Convention de Faro, qui vient, et on en a profité pour réunir autour de la table les acteurs qui sont là aujourd'hui, plus d'Astume, pour parler de ces questions de droit culturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de s'adresser à tous nos publics, qui sont des publics un peu différents, et donc on espère faire venir vendredi soir à Quimper tous les gens qui sont aussi consommateurs de culture, mais quelle qu'elle soit, que ce soit la culture du festival, la culture des bagades, la culture alimentaire, pour discuter de cette question-là et de savoir définir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on a à dire de cette question culturelle et comment on s'en empare.
Donc ça sera c'est ce vendredi en fait.
C'est ce vendredi. Ouais,
le 22 octobre.
Tout à fait.
À quel endroit, à quelle heure?
À 18h30 à l'espace associatif à Quimper. Et je vous promets qu'après cette table ronde, on pourra boire un verre, par exemple.
Et vous avez peut-être d'autres projets d'avenir de collaboration, je ne sais pas, allez-y, Yann Guillemotte.
Alors, on travaille ensemble depuis 4 ans et on n'a pas du tout envie d'arrêter. Donc je suppose qu'on aura... encore beaucoup de choses à faire en commun, mais justement ce qui était évoqué à l'instant par Xavier, la mise en contact de nos réseaux, c'est aussi quelque chose de fondamental. Tout à l'heure, on a parlé du territoire. Le territoire, il ne vit que par l'activité humaine qu'il y a dans le territoire. Nos réseaux, ils vivent par leur activité aussi, mais ils vivent encore mieux s'ils sont capables de se rencontrer et de faire... par cercle concentrique, augmenter l'influence de leur action. Et, ça, c'est, et donc, ben oui, on, effectivement, on a commencé par une collaboration sur un repas. Aujourd'hui, on rajoute une conférence avec l'arrivée de Graines de Liberté dans la structure. On peut rajouter d'autres choses et en rajoutant des acteurs. Et on peut faire une fête encore plus grande le 31 décembre ou dans les jours qui précèdent la fin de l'année à Quimper.
Le Graines de Liberté, votre mot de conclusion ?
Oh bah pour nous, c'est un peu fondamental. C'est-à-dire pour nous, c'est un projet économique pour valoriser du travail qui s'inscrit dans une démarche culturelle. Notre positionnement, c'est des graines pour cultiver nos humanités. Aujourd'hui, en gros, on doit être effectivement dans des approches de conservation pour ne pas tomber réac, quoi. C'est-à-dire que l'enjeu, effectivement, dans un contexte aujourd'hui, c'est comment réinscrire ces enjeux-là par rapport à un contexte assez réactionnaire qui, en gros, a peur de l'avenir et se tourne vers le passé en le mythifiant, quoi. Donc nous, l'enjeu, il est vraiment contemporain et c'est pour ça que là, on va lancer à travers cette collaboration, c'est aussi... Nous, c'est un outil, une coopérative qu'on souhaite, qu'on va monter maintenant et sur lequel on souhaite effectivement que la population, les citoyens, les jardiniers amateurs puissent devenir actionnaires de cette coopérative, mais effectivement dans sa dimension culturelle, puisque pour nous, c'est des graines pour cultiver nos humanités et donc ça mobilise un certain nombre d'enjeux et notamment d'enjeux culturels qui sont pour nous assez fondamentaux, enfin totalement fondamentaux aujourd'hui.
Eh bien, on va rester sur ces mots et on va vous remercier tous les trois. Puis on vous dit à bientôt, je suppose.
Hein ? Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.